Bonjour à tous, j'espère que le micro marche suffisamment. On va être entendu au fond de la salle. Bonjour à ceux que je retrouve, que je connais. Bonjour à ceux que je ne connais pas encore. En tout cas, pour ma part, je suis heureux d'être avec vous ce matin pour ce moment de culte que nous avons ensemble. Puisque je suis chargé de prêcher ce matin parmi vous, je commence en priant, en me recommandant au Seigneur. Notre Père, nous le savons sans doute, sans toi, nous ne serions pas grand-chose. Sans toi, nous ne serions pas ici en ce moment. Sans toi, nous aurions sans doute du mal à comprendre et recevoir ta parole. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi en ce moment même. Nous avons besoin que tu nous guides, que tu nous conduises. Merci pour cette grâce que tu nous fais encore. Amen. Amen. Voici donc le texte sur lequel je m'arrête ce matin avec vous. Il se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, et je lis de ce chapitre 4 les 16 premiers versets. L'homme connut Ève, sa femme, elle devint enceinte et accoucha de Caïn. Elle dit, j'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle accoucha encore de son frère Abel. Abel devint berger de petit bétail et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta les fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel lui aussi apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, et comme ils étaient dans les champs, Caïn se dressa contre son frère et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère, moi? Alors Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit loin du sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse et tu seras errant et tremblant sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, le poids de ma faute est trop grand pour être supporté. Tu me chasses aujourd'hui loin du sol arabe. Je devrais me cacher loin de ta face. Je serai errant et tremblant sur la terre. Et si quelqu'un me trouve, il me tuera. l'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, on le vengera sept fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que ceux qui le trouveraient ne le frappent pas. Puis Caïn sortit de la présence de l'Éternel et partit habiter dans la terre de Nod, à l'est d'Éden. Voilà. Un récit connu. Du chapitre 4. Alors, avant le chapitre 4, le chapitre 3, ce chapitre dans lequel la désobéissance d'Adam et Ève consistait à vouloir décider eux-mêmes ce qui est bien ou mal, sans prendre l'avis de Dieu. À ce stade-là, le péché était une prise d'autonomie. Mais à la génération suivante, hein, puisque nous en sommes là aujourd'hui, à la génération suivante, il y a déjà un meurtre. Ce mal a pris la forme d'un engrenage qui va broyer tous ceux qui ont mis les doigts et leur entourage. Si pour Adam et Ève, l'autonomie n'était qu'illusion, puisqu'au moment même où ils se croyaient libres, ils étaient déjà manœuvrés par un autre, par la suite, eh bien, on passe à la vitesse supérieure. Celui qui avait dû employer la séduction n'a plus besoin de se gêner. Ça marche tout seul. Alors, j'imagine bien que ici, nous ne sommes pas tentés par le meurtre, mais sans doute à un niveau différent, il faut quand même se rendre à l'évidence, le mal est toujours là. L'Église même n'est pas ce cercle dont les participants échapperaient à la tentation et à la chute. Alors il nous est toujours utile de regarder cette réalité avec un minimum de courage. Vous êtes prêts, j'espère. Le quotidien de nos personnages va surprendre peut-être. Dieu parle à Caïn de manière très naturelle, comme moi je vous parle maintenant. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Mais le pouvoir du mal reste le même. Seules les armes ont progressé. Alors, notre récit n'évoque pas tous les aspects du problème, mais il en décrit le mécanisme, une fois que la machine est lancée. C'est sur ce mécanisme que je voudrais m'arrêter. Et je commence par quelques mots sur la mauvaise humeur de Caïn, on va l'appeler comme ça. Après le choix que Dieu a fait en faveur de l'offrande d'Abel, Caïn, nous est-il dit, fut très irrité. Dans quel état d'esprit son offrande avait-elle été offerte? Ah ben, ce n'est pas dit. On est obligé d'essayer d'imaginer. Mais il y a quand même probablement, face à la liberté de Dieu qui choisit, sans avoir besoin de se justifier, il y a ce sentiment sans doute pour Caïn que son frère cadet devient indépendant, échappe à sa domination de frère aîné. Et on sait que dans l'Antiquité, le frère aîné avait quand même un ascendant sur les autres. Certains ont dit au sujet de Caïn, dans leurs commentaires, nous tolérons facilement les autres lorsqu'ils sont comme les pions de notre échiquier, mais beaucoup moins lorsqu'ils se montrent dans un rapport à lui qui nous échappe. Autrement dit, nous voyons d'un mauvais œil que Dieu soit bon avec les autres. C'est comme dans la parabole des ouvriers de la 11e heure. Hein. On retrouve ça un peu plus loin dans la Bible. Au moment où les derniers reçoivent le même salaire que les premiers. La piste est intéressante, hein. Justement, pour décrire la nature humaine, notre nature, avec ses complications. Bien sûr, le désir de Caïn d'être agréé de Dieu reste quelque chose de légitime. Il avait offert, il avait fait une offrande, et d'ailleurs, il avait même pris l'initiative, c'était le premier. Sa déception aussi, sans doute, l'était, tout à fait légitime. Le problème, c'est son irritation. D'ailleurs, c'est ce qui lui vaut une première intervention de la part de Dieu. Même si à ce stade, c'est une intervention plutôt amicale, puisque Dieu s'adresse à lui en lui donnant des conseils, un conseil. Alors, un visage abattu n'exprime pas dans tous les cas de la révolte contre Dieu. Mais, notre récit le mentionne, il y a quand même derrière cet abattement quelque chose d'un peu plus grave, de plus dangereux. Et d'ailleurs, Caïn n'a pas voulu suivre le conseil et plutôt que de d'obéir, il a subi. Et j'en viens maintenant au mécanisme lui-même. Si tu n'agis pas bien, dit Dieu à Caïn, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi. En parlant du péché qui est à la porte, on peut se rappeler que dans la Bible, le péché n'est pas seulement à la porte, il n'est pas seulement à proximité. Il est ancré dans le cœur. Alors, dans notre récit, c'est une image peut-être un peu moins précise, mais qui a l'avantage de révéler un autre aspect. Dieu dit, le péché est tapis à ta porte. Alors, dans le texte en hébreu, le verbe que nos versions françaises ont traduit par être tapis ou être couché, c'est un verbe qui est parfois employé dans l'Ancien Testament pour des bêtes sauvages qui sont à l'affût. Vous imaginez la bête sauvage que vous voulez, qui ne bouge pas et qui cherche à passer, à ne pas éveiller les soupçons et qui attend le bon moment. Et ses intentions sont bien définies. Il veut envahir le cœur et la raison de Caïn. Ses désirs se portent vers toi. Alors, le combat est nécessaire. Il n'y a qu'une solution. Toi, domine sur lui. Et là, c'est plus qu'un conseil. Le combat était-il à armes égales ? Jésus disait bien, celui qui se livre au péché s'en fait esclave. Alors, il y a les conséquences. Le péché fait de l'homme un être encore plus faible qu'il n'était au départ. La preuve, esclave du mal qu'il a toléré en lui, Caïn va jusqu'à tuer son propre frère. Première conséquence terrible qui va en entraîner d'autres. Puisque Caïn va connaître l'exil, errant et tremblant sur la terre, avec même une malédiction du sol, comme à la première génération. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Le péché est un maître exigeant, tyrannique, et qui n'abandonne pas ses proies. J'ai pas fini, bien sûr. Je voudrais relever aussi le positif dans ce récit, parce qu'il y en a. D'abord, Le Seigneur reste auprès de Caïn au moment de la tentation, déjà, dès le début. Il confirme encore ici qu'il ne laisse pas l'humanité désarmée. Avant le meurtre, il lui présente l'alternative. Agir bien, ne pas se complaire dans la déception, pour échapper à son abattement, ou agir mal et se laisser dominer. Et par la suite, une fois que le meurtre a été commis, il reste quand même auprès de Caïn, alors que ce dernier a commis son forfait. Il entend la plainte du meurtrier, pourtant une plainte déplaisante. Et ce n'est pas tout. Il met sur lui un signe de protection, comme il avait fait des vêtements pour couvrir la détresse d'Adam et Ève, une manière d'apaiser la peur de Caïn. Et ce n'est pas tout. Il va même jusqu'à faire peser la menace d'une vengeance sur ceux qui s'aviseraient de le tuer. Dieu prouve à quel point le pécheur reste pour lui un être dont il veut s'occuper. C'est rassurant, c'est positif ça. Alors, pour conclure, je ne peux que reprendre pour nous le thème, ce thème de la grâce de Dieu. On peut rester surpris de l'attention que le Seigneur porte sur celui qui a commis le plus horrible. Ce récit montre jusqu'où le mal peut aller, mais il me permet de le redire. Même pécheresse, la créature reste créature de Dieu. Elle reste l'objet de son attention. Et c'est d'abord, me semble-t-il, une invitation pour nous à rester attentifs aux besoins de tous ceux qui nous entourent, quoi qu'ils aient fait. Une invitation aussi à ne pas calculer la quantité d'amour que nous devrions donner à quelqu'un en fonction de son amabilité. Ou en fonction de ce que l'on juge être sa capacité à se convertir. En d'autres termes, soyons miséricordieux comme notre Père Céleste est miséricordieux. Mais la grâce de Dieu présente encore un autre aspect pour nous. Ça nous concerne encore plus. Nous pouvons être aussi animés d'agacement, de ressentiment, parfois de jalousie à l'égard des autres. Alors, sans doute que c'est peut-être moins grave de conséquences que pour Caïn, mais cela procède, je crois, du même mal qui peut se manifester à la moindre occasion pour blesser, pour faire souffrir. Je crois qu'on sait, la violence n'est pas que physique. Il y a des paroles qui peuvent blesser. On s'imagine parfois que des mauvaises pensées, des ressentiments à l'égard de quelqu'un, ça va passer avec le temps. Mais même si on les oublie, c'est pas forcément chaque fois, mais ils peuvent rester à la porte, c'est-à-dire dans un endroit suffisamment discret, mais proche, d'où ils pourront bondir au moment opportun. Il suffit parfois d'être un peu fatigué ou contrarié par quelque chose, et puis, paf, c'est parti. Alors, à nous qui sommes parfois contrariés, agacés, il faut nous rappeler que la place que nous concédons à ces agacements peut offrir au mal une prise. Et quelquefois, il est trop tard pour attraper une parole malheureuse. que faire. Cette grâce divine nous invite à relever la tête. L'objectif qui était fixé à Caïn, c'était de ne plus avoir un visage abattu, de relever la tête, c'est-à-dire de retrouver la paix avec Dieu et avec lui-même, bien sûr. Le texte de la Genèse ne nous dit pas tout vraiment, pas encore, il faut attendre la révélation du Nouveau Testament, mais il reste quand même pour nous cette invitation. Agir bien, dominer le mal, réagir. Alors, nous n'entendrons pas directement la voix du Seigneur, mais nous avons tout de même un accès à la sagesse divine. Et c'est là que je trouve, c'est ce que je trouve dans un autre texte de la Bible, où il est aussi question de porte. Et je vais lire ce texte. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Vous avez sans doute reconnu celui qui parle, hein ? C'est le Christ glorifié qui fait cette invitation tellement touchante. Et tellement touchante quand on sait que c'est dans la lettre à l'église de Laodicée, une église que pourtant il ne félicite pas du tout. Lui aussi, il se trouve à la porte. Lui aussi, il est à proximité. Et je dirais qu'à ce titre, il constitue notre choix. Bien sûr, c'est pour devenir notre maître. Nous le laissions diriger notre vie, mais il n'est pas tapis derrière, prêt à bondir à la première occasion. Il se contente de frapper et attend qu'on veuille bien lui ouvrir. Eh bien, il se trouve qu'à certaines occasions, il reste pour nous toujours des domaines de notre vie que nous préférons gérer nous-mêmes, même si nous avons déjà ouvert notre porte. Il reste encore une porte à ouvrir. Se livrer au péché ou se livrer au Christ, et le choix est déterminant. Déterminant soit pour une dynamique de destruction, comme pour Caïn, soit pour une vie dans une relation fraternelle avec le Christ, qui se met à la même table, c'est-à-dire au même niveau, qui nous permet d'appeler le Seigneur du ciel et de la terre, notre Père, qui nous permettra de dominer les situations, de bien agir, qui nous donnera le pouvoir d'aimer ceux qui ne sont pas aimables, d'être miséricordieux comme il l'est lui-même. Parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Il ne faut pas attendre les assauts du mal pour vouloir le dominer. Je cite encore une parole de l'Évangile. Lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Y aurait-il quelque chose de plus urgent que la prière? Alors, on peut dire oui et non. Je crois qu'il faut dire plutôt, justement, pour Jésus qui dit ces paroles, c'est une manière de dire que la prière, c'est l'occasion pour nous de nous engager à dominer sur le mal qui est tapé à notre porte, sans attendre. De prier, si on n'arrive pas, de demander à Dieu de nous donner ce pouvoir. Alors je termine simplement avec une question. Qu'est-ce qu'il y a derrière votre porte? À chacun de regarder.